Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Biro et la Meji Chimbila, la présentation de votre journal.
Mesdames, Messieurs, et voici les sommaires. Après presque 3 ans passés à la tête de la MONUSCO comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Leila Zerugui quitte la RDC à la fin de ce mois. Elle invite le staff des Nations Unies d'apporter le même appui à sa remplaçante, la Guinéenne Bintou Keïta. 46 pygmées ont été abattus dans la forêt de la chefferie de Walese Vunkutu dans le territoire d'Irumu en province d'Ituri. Le gouvernement provincial qui attribue ces carnages aux présumés rebelles ougandais de l'ADEP dit avoir dépêché ce vendredi une équipe sur les lieux des drames pour des investigations. Un Kongolo Kabila, directeur général de la DGDA, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il nous parle du prix de la douane qui n'a pas changé et rappelle aux usagers de la douane les dispositions qui sont actuellement d'application dans la taxation de marchandises à l'importation. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Arrivée fin mandat à la tête de la MONUSCO, Madame Leila Zerugui quitte la RDC à la fin de ce mois. Dans un entretien ce vendredi à une équipe multimédia de la mission, elle invite le staff des Nations Unies d'apporter le même appui à sa remplaçante, la Guinéenne Bintou Keïta. Les propos de Leila Zerugui sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Vous allez me manquer. Mais la première chose que je vous demande, continuez de faire ce que vous faites. Donnez le même appui à celle qui va me remplacer. Madame Bintou est une enfant de l'organisation. C'est une femme qui a travaillé dans le peacekeeping. C'est un enfant des Nations Unies. Elle a travaillé dans l'UNICEF sur les enfants. Elle a travaillé dans des missions de maintien de la paix difficiles. Elle a travaillé au Soudan, elle a travaillé au Burundi, elle a travaillé à New York, elle a travaillé partout. Donc, ce que vous m'avez donné, continuez à le lui donner. Pour le moment, je rentre chez moi. Ça fait 13 ans que je vis en dehors de mon pays. Donc il y a une réadaptation pour me replonger dans la vie d'une citoyenne, dans un pays aussi qui est en transition, qui a aussi ses défis, et retrouver mes proches. On verra après.
À Zongo, dans la province du Sud-Ubangi, le maire de la ville signale un afflux massif des réfugiés centrafricains. Plus de 10 000 d'entre eux vivent dans des conditions précaires. Ils ont fui leur pays à la suite des affrontements qui ont éclaté entre les forces régulières et les rebelles après les élections. D'où l'appel à l'assistance humanitaire à ces réfugiés lancé par le numéro 1 des Zongo. Une correspondance d'épaule, Richard Malengela.
Depuis mercredi dernier, a affirmé le maire de Zongo, ces réfugiés ont fui Bangui, la capitale de la RCA. Ils sont estimés à plus de 10 000 personnes réparties dans environ 1 500 foyers. Ces gens sont encore disséminés le long de la rivière Ubangui, démunis de tout et vivent dans des conditions déplorables, notamment dans les localités riveraines à 12 km en aval de la ville, a indiqué notre source. L'autorité urbaine se dit également dépourvue de moyens pour la prise en charge de ces personnes. Le maire de Zongo craint aussi des problèmes sécuritaires, surtout une montée des cas de COVID-19 dans sa juridiction à la suite de cet afflux incontrôlé. Michel Siazo lance alors un appel aux humanitaires.
Tout d'abord, pour des prises en charge et aussi, comme ils sont juste au bord de la rivière, tout peut y arriver. Il faudrait qu'on essaye comment les évacuer pour les mettre dans un centre de transit. C'est comme ça que nous appelons les gens de Vol-3, les ONG, de voir la situation.
Consulté à ce sujet, le commandant de la 13e région militaire en Bandaka dit avoir reçu l'information. Toutefois, ces hommes ont rapporté quelques retours volontaires parmi ces réfugiés et ils restent en alerte jusqu'à ce que le HCR les identifie en vue de leur prise en charge, a souligné le général Shora Mabondani. Bandaka pour Chemaningue, la radio Okapi.
19h05 en Ituri où le bilan de l'attaque d'hommes armés la nuit dernière au village d'Abimbi dans le territoire d'Irumu est revu à la hausse selon le ministre provincial de l'Intérieur et d'autres sources concordantes. 46 pygmées ont été abattus dans la forêt de la chefferie de Walese Vunkutu. Le gouvernement provincial qui attribue ces carnages aux présumés rebelles ougandais de l'ADEF dit avoir dépêché ce vendredi une équipe sur les lieux des drames pour des investigations. À Bunia, les récits des faits. Martial Kizabiamungu.
C'est le jeudi dans la journée que la nouvelle de massacre de ces personnes a été rendue publique dans la zone. Selon le député provincial originaire de cette entité, David Afitandi, des hommes munis, des machettes et des fusils ont fait incursion au village Abembi, situé au milieu de la forêt, à la limite avec la chefferie de Banyali Tchabi. Les victimes, composées essentiellement des femmes et des enfants, ont été surprises dans leur campement pendant que les hommes étaient encore à la chasse. Il y a eu deux rescapés blessés lors de l'attaque qui ont rapporté la nouvelle aux autorités. David Afitandi.
Ça demande la mobilisation collective pour aller atterrir le caracicor, sa vie qui est après de pourrir à l'extérieur.
Contacté ce vendredi matin, le ministre provincial de l'Intérieur, Adjio Guidi, confirmait ces massacres. Adjio Guidi.
Nous avons instruit l'acte avec son comité local. Ce matin, ils vont quitter, aller sur les lieux pour constater les faits et puis procéder à l'enterrement digne de nos pygmées qui ont été massacrés par ces derniers.
Notons que c'est le premier bilan lourd des massacres des civils à l'Ituri depuis le début de cette année 2021. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au nord Kivu, les FARDC ont déjoué une attaque de rebelles ougandais de l'ADEF à Mwenda. Mwenda, c'est une localité du secteur des Rwenzori dans les territoires des Beni. Ce vendredi matin, la population protégée par l'armée dans son camp a regagné le village pour poursuivre ses activités. Le point à Beni avec Marc Marofimbo.
Les soucis placent à Mwenda renseignent que c'est à partir de 15h ce jeudi et que les rebelles de l'EDF ont tenté d'attaquer la localité de Mwenda qui est bien quadrillée par l'armée. Ces derniers se sont infiltrés dans la localité après avoir traversé la rivière Butahu qui donne accès à cette localité. Alertée par la détonation des armes lourdes lors de cette attaque, la population qui était dans les champs aux environs de Mwenda a été rapidement récupérée par l'armée qui transportait au dos ceux qui avaient des difficultés de se mouvoir pour leur sécurité jusque dans son camp et les autres ont été escortés à la colline de l'hôpital général. De Mwenda. Ensuite, l'armée s'est mise à attaquer ces rebelles qui, après 3 heures d'affrontement, ont décroché et poussé dans la forêt. Ces sources parlent d'un bilan de 2 civils tués par ces EDF, dont le chef du quartier Lusilubi de la localité de Mwenda et un détraqué mental en état d'ébriété. On signale également des autres civils blessés par balles qui sont soignés à l'hôpital de Mwenda. Ce vendredi matin, la population qui a passé une nuit au camp militaire et sur la colline de l'hôpital a regagné la localité escortée par les militaires. Signalons que l'armée a renforcé sa ceinture dans cette région où ces rebelles multiplie des tentatives d'attaque à Mwenda et Losé. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Rendons-nous dans le Haut-Katanga où un dispositif policier a été observé cet avant-midi à différents endroits à Lubumbashi. D'après plusieurs sources, l'objectif est de dissuader ceux qui ont projeté une marche pour réclamer l'indépendance du Katanga. Ce même dispositif a été aussi constaté dans la ville frontalière de Kasumbalesa. À Lubumbashi comme à Kasumbalesa, la situation est calme et toutes les activités se déroulent normalement. Le point avec Jean Gandou.
Ces policiers étaient visibles notamment au rond-point Carrefour, sous la route Kassapa, au siège de l'Assemblée provinciale, sur Square Georges-Arthur Forest et même ce matin à la hauteur du pont Chondo. D'après plusieurs sources, une marche était prévue par un groupe de personnes se réclamant de ceux qui demandent l'indépendance du Katanga. Leurs identités n'ont pas été révélées. Des tracts ont été jetés annonçant cet événement. Informée, la police a pris toutes les dispositions pour étouffer cette entreprise. Encore qu'aucune manifestation n'a été autorisée par les autorités en cette période où les rassemblements sont interdits à cause du coronavirus. Toujours à ce sujet, le président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, a au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi dans sa résidence, dénoncé cette démarche et surtout ceux qui en sont les instigateurs qui veulent tout simplement semer les troubles. Pour lui, l'heure n'est plus à ce genre d'aventure mais plutôt à la consolidation de la paix.
Je vous ai appelé pour agiter la sonnette d'alarme comme parents, comme fils du Katanga. Je dénonce. Au moment où je vous parle, la ville de Lubumbashi est encerclée par des jeunes drogués et qui cherchent à proclamer l'indépendance du Katanga. C'est pas du mensonge, j'ai tous les rapports. Nous ne sommes pas distraits.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Restons dans la ville de Lubumbashi pour parler d'autre chose à présent. Plusieurs mois après sa libération de la prison de Makala, Jean-Claude Muyambo a déposé ce vendredi au parquet général de Kinshasa Gombe une plainte contre l'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement. Le président du parti politique Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement l'accuse de plusieurs faits dont arrestation arbitraire, torture physique et morale et tentative d'assassinat. Jean-Claude Muyambo pense qu'avec l'état des droits, justice sera faite. On l'écoute au micro de Jean Gandou.
J'ai été arrêté à 3h30 du matin chez moi à la maison. Et les agents de l'ANR, commandités par Kalev Moutonde, ont escaladé les murs, ils ont cassé, ils sont entrés chez moi. Ils m'ont arrêté arbitrairement, ils m'ont torturé physiquement et moralement. Un traitement inhumain et dégradant. Le même jour, j'ai été jeté à la prison de Makala sans plainte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dépose plainte contre lui. J'avais déjà déposé une plainte réceptionnée le 26 février 2016. Le PGR de l'époque n'a rien fait. C'est pour cela que je l'ai poursuivi aujourd'hui pour arrestation arbitraire, torture physique et morale, traitement inhumain et dégradant et tentative d'assassinat. Et je pense que la justice sera rendue. La plainte vient d'être déposée au parquet général de Kinshasa Gombe. Je viens aussi de déposer dans la même plainte contre M. Stoupis comme complice de toutes les infractions.
L'auditeur général de FRDC est décédé ce vendredi en Afrique du Sud. Selon une source du parquet militaire, le lieutenant général Tim Monkutu avait contracté le coronavirus. Ces deux dernières années, ses hauts gradés de FRDC s'étaient particulièrement impliqués pour soutenir l'accusation dans les procès des présumés des personnes accusées du meurtre de deux experts des Nations Unies au Kasaï en 2017. D'autres précisions avec vous, Julien Nyamouini.
Le lieutenant général Monkutu a été nommé auditeur général de l'armée en 2018 avant d'être reconduit à ses postes en février 2020 par le président Tshisekedi. Avant d'accéder aux fonctions d'auditeur général, il a été premier avocat général des FRDC. Cependant qu'il occupait ce poste, qu'il a soutenu l'accusation dans le procès des ADF à Beni. Nommé auditeur général, le général Monkutu s'était personnellement occupé de l'accusation dans le procès de présumés meurtriers des experts de l'ONU au Kasaï. Il effectuait régulièrement des séjours à Kananga où il a représenté le ministère public lors de nombreuses audiences devant le tribunal et la cour militaire. Au cours d'une interview accordée à Radio Okapi en avril 2019, le général Tim Monkutu avait promis aux familles Zaïda Catalan et Michael Sharp la mobilisation, la mise en œuvre de tous les moyens humains techniques pour que le voile soit levé sur le drame. Il avait également promis que le dossier des quatre accompagnateurs congolais serait également envoyé devant les juges. Le lieutenant général Monkutu était également professeur d'université. Il a notamment enseigné le droit pénal militaire à plusieurs générations d'étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa.
Dossier santé avec la province du Sud Kivu qui a connu jusqu'à ces jours 449 cas de COVID-19, dont 36 actifs en traitement, 361 guéris et 52 morts, selon le rapport dressé par le ministre provincial de la Santé. Cosmos Moussimoa Bichiche affirme que la ville de Bukavu constitue l'épicentre de cette pandémie dans la province. La seule zone de santé d'Ibanda compte à elle seule 316 cas confirmés, soit plus de trois quarts des cas cumulés. Il insiste sur le respect des mesures barrières et rappelle l'existence de la caisse de solidarité pour COVID. Il est au micro de Rachel Kiesembangou.
La semaine du 4 au 10, nous avons enregistré 24 cas confirmés de la COVID. Pendant la même semaine, nous avons perdu un compatriote. Nous avons une nouvelle zone de santé touchée par la COVID. Cette semaine du 11, nous avons déjà enregistré 4 nouveaux cas confirmés, ce qui nous ramène à ces jours à 449 cas confirmés dans la province du Sud Kivu. Sur le 449 cas confirmés, nous avons encore 36 cas actifs, donc malades et sous traitement à ces jours. Nous avons 361 guéris. Maintenant, nous avons un cumul de 52 compatriotes qu'on a perdus depuis le début de la pandémie. L'épicentre de la COVID reste la ville de Bukavu, la zone de santé d'Ibanda, qui elle-même compte 316 cas confirmés sur les 449 cas pour toute la province du Sud Kivu. La caisse de solidarité, elle est opérationnelle. Elle a déjà reçu les contributions de certains compatriotes.
Actualité internationale.
L'Ouganda est suspendu à l'attente des résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce jeudi. Il devrait être annoncé demain samedi à 16h locale, 13h en temps universel. Mais déjà, Bobi Wine, l'opposant principal, dénonce des fraudes. Il s'est dit même certain de sa victoire. Bobi Wine l'a annoncé ce vendredi matin lors d'une conférence de presse tenue chez lui à Magere, alors que sa maison était entourée des policiers. J'appelle tous les Ougandais à rejeter le chantage. Nous avons certainement gagné cette élection et nous l'avons gagné de loin, a-t-il déclaré.
L'invité.
Et c'est le directeur général de la DGDA, Kongolo Kabila, parle du prix de la douane qui n'a pas changé et rappelle aux usagers de la douane les dispositions qui sont actuellement d'application dans la taxation des marchandises à l'importation. Il s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur Kongolo Kabila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la DGDA. La douane congolaise a toujours été taxée la plus chère au monde. Pourquoi vous avez décidé en ce moment d'augmenter les droits des douanes dans tous vos bureaux de douane?
Bien. Ça me fait rire, monsieur J.R. Je n'ai pas le droit d'augmenter les droits de douane. Les droits et taxes perçus par la Direction générale des douanes et accises possèdent de la loi. Et donc, on ne peut pas augmenter les droits et taxes. Là, vous voulez peut-être parler de ce qui s'est passé à l'aéroport international d'Indi. En fait, il s'agit évidemment de ceux qui ne payaient pas réellement les droits et taxes de droit. Correct. La taxation douanière est dite chez nous ad valorem, c'est-à-dire basée sur la valeur de la marchandise. C'est-à-dire que lorsque vous amenez la marchandise, vous devez amener tous les documents qui ont accompagné cette marchandise. La facture d'achat, les frais, c'est-à-dire le montant que vous avez payé pour les frais, mais aussi tous les autres frais qui pourraient accompagner que la marchandise puisse arriver. Nous avons vu par exemple l'entreprise CAPEM qui s'adresse à sa clientèle et qui dit qu'il y a eu augmentation des droits de douane à 50%. Nous disons c'est faux. Il n'y a pas d'augmentation des droits de douane. Dans ce cas-là, nous invitons l'entreprise CAPEM de pouvoir venir nous voir avec les documents liés à l'importation de sa marchandise. Nous allons lui montrer comment cela se passe de façon qu'elle puisse payer correctement les droits de douane. Ça me fait rire. Partout dans le monde, nous sommes parmi les plus faibles quand il s'agit des taux de droits de douane à l'importation. Nous n'avons pas augmenté les droits de douane, c'est-à-dire ceux qui ne payaient pas correctement ont commencé à payer correctement.
Semble-t-il que tout est parti de votre note de service de janvier 2019 adressée aux usagers et de douane où vous annoncez quelques dispositions. Qu'en est-il?
Oui, justement. C'était déjà en 2019, au mois de janvier, que nous avions pu remarquer qu'il y avait des marchands, des usagers qui amenaient des gros tonnages de marchandises et qui ne faisaient pas passer par la douane pour qu'elle soit payée, pour qu'elle soit taxée et que l'argent perçu puisse entrer dans le compte du trésor public. C'est ainsi que nous avions pris une note de service aux usagers de la douane tous et pour ce qui concerne les excédents des bagages, qu'on appelle communément là-bas MCO et d'autres ou bien cargo bagages. Et nous avions demandé à tous les usagers de pouvoir se conformer à certaines dispositions et que désormais là, excepté les bagages qui accompagnent les voyageurs qui seront acheminés à l'aérogare modulaire pour y subir un contrôle douanier et même sécuritaire, toute autre marchandise importée sous le label MCO et cargo bag devrait être acheminée à l'entrée.
Donc ce n'est qu'un rappel.
Ce n'était qu'un rappel. Et nous avions même dit que la succursale du guichet unique de la DGDA Kinahero, située à l'actuel bâtiment d'arrivée des sous, n'était plus opérationnelle pour les formalités douanières. Et là, nous avions dit que les transporteurs et leurs assistants au sol sont tenus de dissocier à l'embarque et à l'arrivée les bagages accompagnés des voyageurs et ceux destinés à l'entrepôt conformément au point 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions que nous avons prises. La taxation en ligne est devenue une mode d'opération qui suppose que la personne se trouve ici, une autre se trouve de l'autre côté, mais en fait, en ce moment-là, il s'envoie de l'argent par voie électronique et la marchandise arrive. Mais si cette marchandise arrive et qu'elle n'a pas de facture, elle n'a pas de documents qui puissent permettre la véritable évaluation, il faut que la marchandise s'accompagne de tous ces documents-là. Bien sûr que le commerce électronique, c'est un domaine qui est actuellement le plus exploité. Et ces marchandises, quand elles viennent, elles doivent être vérifiées. On doit connaître quelle est la nature de cette marchandise, quelle est la valeur de cette marchandise, comment elle a été amenée, est-ce par avion, par mer, de façon à pouvoir appliquer les droits de douane.
Et ceux qui se trouvent victimes de surtaxation, quelle démarche doit-il faire?
Surtaxation, ça veut dire quoi? Donc, dire que ça a été surtaxé, bon, En fait, à ce moment-là, ils peuvent toujours introduire un recours. Oui, le problème, si on trouve que ça a été surtaxé. Mais je vous dis que pour taxer la marchandise, on tient compte de la valeur de la marchandise, c'est-à-dire des documents qui ont accompagné la marchandise. Ces documents doivent être des documents originaux, malheureusement. Alors qu'il y a des documents originaux qui existent, ils utilisent des documents falsifiés, photocopiés falsifiés, nous en avons des preuves. Voilà pourquoi nous avons exigé que les documents qui doivent être présentés soient des documents authentiques qui permettent que la douane puisse obtenir les renseignements nécessaires qui lui permettront de pouvoir taxer correctement la marchandise en vue de renflouer la caisse du trésor.
Monsieur Kongolo Kabila, merci.
Merci.